qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcastsplurielmakers.com. Et maintenant, sans plus tarder, place à l'invité de ce nouvel épisode d'Offcast. Salut à tous. Aujourd'hui, on est ravis d'inaugurer cette nouvelle série de podcasts Offcast avec Barthélémy Fend, qui est notre premier invité à se prêter à l'exercice du backstage du podcast français. Salut Barthélémy, comment vas-tu ?
Salut Raph, bah écoute, ça va super bien et toi ?
Ça va, merci. C'est vraiment cool que tu sois là pour inaugurer ce nouveau format et ce nouveau podcast. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ce que tu faisais avant le podcast, pourquoi tu as lancé ton podcast, à quoi ça te sert, ce que tu apprends et puis comment tu vois le paysage podcast français, comment tu t'inclus dedans et si tu as quelques anecdotes sympas à nous partager sur ton expérience de podcasteur so far. Donc est-ce que c'est un programme qui te convient, qui t'intéresse ?
Ouais, carrément. Bah, je pense que j'aurai quelques petites anecdotes assez sympas, ouais.
Parce que tu as déjà fait 40-45 épisodes, c'est ça, avec ton podcast donc, qui s'appelle Extraterrien.
Ouais, exactement. J'en ai enregistré un peu plus de 50. Là, je crois que je dois en avoir 53-54 dans les bacs et j'en ai publié 44. 44 sans les hors-série, donc je dois être à 49, quelque chose comme ça dans les épisodes publiés. Donc là, ça va faire bientôt un an. Je vais bientôt fêter mes 1 an et j'en profite pour te remercier, écoute, pour cette super proposition, parce que t'es hyper actif dans la communauté du podcast en France et ça me fait super plaisir de pouvoir participer, d'apporter un petit peu de valeur aux autres podcasteurs de l'écosystème et peut-être même aux autres acteurs, au sens large. Donc, merci beaucoup. Je suis très honoré.
Bah écoute, franchement, sans vouloir se faire du respect mutuel comme ça trop longtemps, mais vraiment, tous les remerciements sont à toi parce que tu es vraiment un acteur vraiment du podcast sur un sujet très spécifique et je pense que c'est le moment aussi que tu présentes ton background et ce que tu fais exactement avec Extraterrien.
Si tu veux, pour bien comprendre un peu l'histoire du podcast, il faudrait peut-être que je raconte rapidement mon parcours. Mais en gros, j'ai été commercial dans une agence web pendant 3 ans. Après, je voulais prendre la place de mon boss. Du coup, j'ai monté moi-même une agence web. J'ai voulu monter aussi en parallèle une marque de compléments alimentaires qui a complètement planté. Mais il s'est avéré que comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait créé énormément de contenu pour acquérir du trafic et qu'on a réussi à monétiser un peu tout ce contenu, donc un peu comme un blogueur qui fait de la pub. Et on s'est énormément rapproché de sportifs à ce moment-là. Moi, j'ai toujours fait énormément de sport et c'était un univers qui me tentait et j'étais hyper frustré de ne pas trouver d'idées, pas trouver de business model hyper intéressant dans le domaine du sport. Aujourd'hui, la sport tech en France se porte pas trop mal, mais il n'y a pas non plus eu des grosses explosions qui sont arrivées. Tu vois, je pense à des apps consumer qui sont surtout venues d'Allemagne ou venues des États-Unis. Et moi, j'étais un petit peu frustré de ne pas trouver ça à l'époque. Et puis, entre-temps, une connaissance est venue vers moi et m'a proposé de monter un site de rencontre qui s'appelait Abricot. Ça a été une super aventure pendant 2 ans et demi. J'ai tout lâché à côté quasiment. J'avais encore ma première boîte du coup de contenu qui tournait toujours et qui me payait. Et avec Abricot, un jour, Comme beaucoup d'aventures entrepreneuriales, malheureusement, il y a une fin. Nous, c'était peut-être plus un problème perso entre fondateurs. Et du coup, je me suis levé un matin, j'ai été viré de ma boîte, quoi, par mes associés. Et du coup, après la grosse période de pression, parce qu'on travaillait énormément, est venue la période un peu de dépression. Alors, c'était pas une dépression vraiment au sens médical du terme, mais tu vois, j'étais vraiment dans un sas de décompression peut-être plutôt, et de me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et en fait, j'ai repris un carnet dans lequel en fait je notais, c'était plutôt un carnet, un fichier Evernote aussi, où dans lequel je notais toutes mes idées de business, tous les trucs que je voyais passer, que je trouvais sympa, tu vois. Donc il y avait vraiment de tout et de rien. Dès qu'il y avait un concept américain qui me plaisait bien, je le notais. Dès que j'avais une idée sous la douche, je la notais. Et j'avais noté, en fait, quand je commençais à monter mes premières boîtes, j'ai eu envie de monter des boîtes grâce à Tim Ferriss, donc un gros podcasteur américain, mais surtout auteur d'un livre assez connu qui s'appelle La semaine de 4 heures. Donc, je vais pas trop épiloguer là-dessus parce que c'est un livre quand même qui est très connu. Mais du coup, je suis tombé dans le podcast par sa porte. Et je suis assez vite tombé sur un podcast qui est assez similaire, qui s'appelle le Rich Roll Podcast, qui est monté par un mec qui s'appelle Rich Roll et qui lui interview beaucoup plus de sportifs américains. C'est un trailer vegan, et du coup il ouvrait un petit peu la porte à toute une nouvelle tendance en fait de sportifs qui sont tous les sportifs un peu extra et aussi vachement portés sur des acteurs de la santé. Et je m'étais dit mais en fait c'est génial, ça serait super, je pense que ça marcherait bien aussi en France, il y a une grosse vague de développement personnel, de sport. Et du coup j'avais noté cette idée là j'avais noté pour la petite anecdote j'avais noté kiff 10 sur 10, possibilité d'en faire de l'argent 2 sur 10 et compétences pour le faire, j'avais noté 6 ou 7 sur 10 parce que j'aime bien créer du contenu et je pense que c'est pas hyper compliqué de parler dans un micro. Bon, il s'avère qu'il y a quand même plus de spécificité à faire des interviews et à faire un podcast. Mais voilà, j'avais noté ça. Et en fait, suite à cette petite phase un peu de décompression, j'ai rouvert ce carnet, je suis tombé sur l'idée et je me suis dit, tiens, ça me changerait bien les idées de faire ça. Je connais rien du tout, mais pourquoi pas aller interviewer tous les sportifs de haut niveau. Il s'avère que les Jeux étaient prévus pour 2024 à Paris. Du coup, j'ai fait une petite recherche sur les podcasts et en France, dans le sport, il y en avait très peu. Il n'y en avait aucun qui voulait aller un peu interviewer des sportifs, à la fois des sportifs de l'extrême et à la fois des sportifs olympiques et leur essayer de comprendre leurs ressources mentales. Ni une ni deux, je me suis lancé. Je me suis dit, allez, j'essaie d'en faire 5. Si jamais ça me plaît, je continue et c'est parti. Si jamais c'est un four total, on arrête, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait l'expérience. Et du coup, j'ai contacté mon réseau. Énorme coup de bol. Il s'avère que dans mon réseau, j'ai un copain qui s'appelle Vincent, d'ailleurs, je le salue s'il écoute, qui a fait de l'aviron à haut niveau pendant très longtemps et qui connaissait Jérémy Azou, qui est champion olympique dans l'aviron. C'est un peu le Roger Federer de l'aviron. Il n'est pas très connu, mais il a gagné les Jeux 5 ou 6 fois champion du monde, 12 fois champion de France. Enfin, c'est une légende en France dans son sport. Je connaissais aussi Gaël, un autre podcasteur qui avait interviewé Arthur Guérin, Boeri, qui a plusieurs records du monde en apnée. Du coup, voilà, j'avais deux, trois contacts comme ça. Et du coup, je me suis lancé. Il s'avérait que c'était assez simple. Toute la partie technique ne me faisait pas du tout peur. Et au contraire, je prenais plaisir à la faire. Et voilà, et c'est comme ça que je suis parti, sans trop réfléchir à un business model, sans trop réfléchir à tout ça, mais le faire vraiment pour le kiff et pour me changer les idées d'une aventure entrepreneuriale qui peut être considérée comme un échec sur le coup, même si maintenant je le considère comme une réussite et que j'ai énormément appris. Voilà, un petit peu la genèse du projet.
Et entre cette épiphanie et le moment où tu as lancé ton premier épisode, il s'est passé combien de temps ?
Très peu de temps, je pense. Une semaine de je déprime dans mon lit, une semaine de je me ressaisis, je m'éclate à fond, une semaine je me remets sur mon ordinateur et je cherche toutes les idées, je trouve le podcast et je crois un mois après je sors mon premier épisode, donc il a dû se passer au maximum 2 mois entre ce qui s'est passé avec ma boîte et la sortie de mon premier épisode. Donc, c'est allé assez vite. Et sachant qu'en plus, j'avais pris le temps d'enregistrer plusieurs épisodes avant pour avoir un petit peu de marge, tu vois, et essayer de trouver. Donc non, de toute façon, je suis pas trop du genre à avoir des longues périodes de repos.
Tu te lances, quoi.
Ouais, c'est allé assez vite, ouais.
Et donc, ces premiers guests que tu as eus, c'était beaucoup par ton réseau. Et les guests actuels, comment tu fais pour les chercher ? Bon, tu as cette reconnaissance maintenant dans le monde du podcast français sport, mais les guests que tu welcomes dans ton show, est-ce que ce sont systématiquement et forcément des guests qui sont connus, qui ont gagné des titres, qui ont gagné des coupes dans leur compétition, dans leur domaine ? Ou est-ce que aussi tu as envie de laisser la parole à des sportifs peut-être moins connus, mais qui peuvent donner une autre perspective sur leur sport en question, une perspective d'un gagnant, mais pas d'un champion ?
Ouais, écoute, c'est une super bonne question que je me pose encore maintenant. À la fois l'audience, les invités ont beaucoup évolué parce qu'au début, donc c'est passé par le réseau. Après, j'ai envoyé des centaines d'emails à des sportifs olympiques, des champions, vraiment des gens que tu peux voir à la télé, hein, qui sont presque reconnus internationalement. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de râteaux, quoi. Très, très peu de réponses parce que je ne connaissais pas du tout l'univers du sport. J'avais encore très peu d'épisodes. Donc, j'ai eu ma technique, en fait, ça a été de demander à chaque fois à mes invités de me recommander un ou deux invités. Et ça marchait, en fait, super bien, notamment quand j'avais un super fit avec l'invité. Tu vois, je parlais de Jérémy Azou, un mec avec le cœur sur la main, d'une gentillesse incroyable, le smile du début à la fin pendant l'interview. On est resté après une heure en rantaine à rigoler. Il m'a recommandé trois personnes. Et en fait, j'ai fait grandir, on va dire, la communauté des invités comme ça, uniquement par le bouche à oreille, parce qu'en fait, j'avais très, très peu de réponses au début sur. On va dire à mes cold emailing, quoi, mes emails froids comme ça. C'est comme ça que ça s'est fait au début. Et après, du coup, j'ai eu quelques recommandations de sportifs qui n'étaient pas forcément internationalement reconnus, ni même nationalement reconnus, mais qui avaient fait des exploits assez conséquents. Tu vois, je pense à un mec qui s'appelle Guillaume Arthus, qui a traversé les Alpes en courant, en complète autonomie, tu vois, juste avec un petit peu d'argent dans sa poche, un sac de couchage et une carte. Et tu vois, il a fait ça en 40 jours et il a couru un nombre incalculable de kilomètres pendant 40 jours. Donc, tu vois, je suis aussi allé voir un peu des sportifs de l'extrême, peut-être beaucoup moins connus du grand public, mais qui ont fait des grosses performances. Et pour terminer un peu sur comment je trouve mes guests, j'avais en début d'année 2020, j'ai fait une appel à bénévolat auprès de mon audience pour leur proposer, en fait, de m'accompagner sur des tâches qui étaient assez chronophages dans le podcast. Et une de ces tâches, c'était effectivement la recherche d'invités. Et j'ai eu une chance incroyable d'avoir une personne qui s'appelle Léa, que j'embrasse vraiment, à qui je fais une grosse bise parce qu'elle m'a donné une bouffée d'air frais dans le podcast où, en gros, elle s'occupe, elle, d'aller contacter des sportifs de haut niveau, de leur présenter le projet, de les appeler, de leur expliquer un peu la stack technique et l'ambiance un peu du podcast et après d'organiser le rendez-vous avec moi. Donc, vraiment, c'est une personne incroyable qui m'a beaucoup aidé et du coup qui me permet, en fait, de toucher des sportifs que j'avais contactés il y a un an et qui m'ont pas donné de réponse. Et en fait, elle le fait avec un angle. Avec son style, quoi, et avec la banane, avec des emojis dans ses emails, avec des questions parfois un petit peu naïves, où elle prend le temps de s'intéresser à l'invité, de rebondir sur son actualité. Et du coup, là, je le vois vraiment, ça me donne une toute autre perspective. J'avais aussi le projet de faire un focus sur les athlètes olympiques, parce que on était dans une année olympique, et puis j'avais le rêve aussi d'aller, pourquoi pas, me faire inviter par un gros média pour aller à Tokyo. Le destin en a décidé autrement. Mais voilà, pour répondre à ta deuxième question.
Ton podcast devra durer encore un an.
Pour aller au JO. Ouais, exactement. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, l'audience grossit. Là, en quelques mois, il s'est passé beaucoup de changements. J'ai eu beaucoup de marques d'intérêt de la part de médias, d'agences, de marques aussi. Donc, ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et ouais, pour répondre à ta question, moi, ce qui m'intéresse en interviewant des sportifs, c'est vraiment de comprendre comment est-ce qu'ils font pour devenir des champions ou comment est-ce qu'ils font pour réaliser des exploits. Et en fait, peu importe qu'ils soient connus ou pas, ce qui m'intéresse, c'est surtout cet aspect mental, l'aspect préparation, comment est-ce qu'ils s'entourent, comment est-ce qu'ils imaginent leur projet. Et du coup, en fait, c'est hyper intéressant.
Et comment tu fais justement pour que ces guests arrivent à se livrer volontairement et arrivent à avoir cette hauteur de vue pour partager leur mental et communiquer cette introspection? Parce que c'est quand même un style de vie quand tu es sportif de haut niveau, un style de vie qui est très intense, où tu dois être ultra focus encore plus que quand... que quand tu es entrepreneur, puisque tu lis le mental et le physique. Donc, comment tu fais pour arriver à unlock les portes de leur mental pour qu'ils se livrent et pour qu'ils soient authentiques?
Écoute, c'est une super bonne question. Au début, je n'avais pas forcément le truc. Alors, déjà, juste pour préciser, il y a quand même différents types de sportifs. T'as les sportifs qui sont vraiment... Le mot peut paraître péjoratif, mais qui sont un peu assistés. Tu vois, typiquement, un footballeur dans un club de foot, il a son programme alimentaire, il a son programme d'entraînement, il a son programme de la semaine qui est fait par un coach, et il remplit même pas lui-même sa fiche d'impôt, et en fait, il a un agent qui remplit son agenda. Et donc, effectivement, c'est peut-être des gens qui vont... qu'il va falloir, enfin moi c'est des invités sur lesquels je vais faire assez attention en amont, avec qui je vais passer un coup de téléphone, je vais écouter des interviews, je vais leur faire écouter mon podcast, parce que je sais qu'ils vont tomber dans des questions auxquelles ils n'ont pas l'habitude de répondre, notamment parce que c'est souvent des interviews au format très court, qui sont pour du format télé, où ils sont en direct, où ils sont vachement surveillés. Donc, il faut faire vachement gaffe, effectivement, à tous ces sportifs qui sont vraiment dans un cadre, dans un moule et qui ont même des coachs en communication et qui leur disent de répéter à chaque fois les mêmes phrases et qui ne se posent pas forcément toujours les questions, quoi. Ils font le job, quoi. Ils sont salariés, hein, finalement. Ils ont un club ou une fédé qui les finance. Mais il y a toute une autre veine de sportifs que je suis en train de découvrir, qui sont vraiment des self-made sportifs. Tu vois, on parle beaucoup de... C'est marrant que tu fasses le lien avec les entrepreneurs parce que c'est vraiment ça. On parle beaucoup des self-made man ou des self-made women qui sont des entrepreneurs et qui sont faits tout seuls. Et bien, dans le sport, tu as exactement la même caractéristique avec des sportifs qui n'ont pas de fédé, qui n'ont pas de club, qui doivent aller chercher leur financement avec les dents, qui doivent créer énormément de contenu, qui doivent créer un business aussi à côté, que ce soit autour du coaching, créer une marque, créer ce genre de choses. Et du coup, c'est des gens qui vont se poser beaucoup plus ce genre de questions parce que du coup, ils vont écouter eux-mêmes des podcasts d'entrepreneurs, ils vont écouter ils vont énormément consommer du contenu et ils ont une démarche très entrepreneuriale du sport. Et du coup, là, les interviews sont beaucoup plus simples, en fait, parce que finalement, ils ont l'habitude de ce genre de format, et ils sont beaucoup plus acculturés et ils sont hyper contents que quelqu'un comme moi, à la différence peut-être des médias traditionnels dans le sport, qui sont sur des formats courts ou dans lesquels ils n'ont même pas besoin de se poser la question de qu'est-ce qu'ils doivent dire parce que tout sera repassé au montage et tout sera retravaillé derrière. Et ben en fait ils sont hyper contents d'avoir quelqu'un comme moi qui est spontané, qui leur dit voilà, on va faire une heure et demie no cut, répond à toutes les questions et puis le but c'est de passer un bon moment et du coup eux c'est beaucoup plus simple et c'est, mais globalement le process, si je dois faire un process global, c'est je leur parle du podcast, je leur envoie un lien, je leur demande de regarder les invités, savoir s'ils connaissent quelqu'un. Si oui, j'embraye et leur dis ouais, ça pourrait être sympa que t'écoutes ne serait-ce que les 30 premières minutes en faisant ton footing ou en faisant ta vaisselle. Deuxième, ensuite je leur shoot les questions et je leur impose de les lire. C'est vraiment, alors je suis vachement dans l'écoute, j'essaye vraiment de rebondir, mais il y a une trame qui revient assez souvent, notamment les sujets qui m'intéressent beaucoup, hein, autour de la préparation mentale et de la performance. Et du coup, je les force vraiment à les lire et je porte leur intention là-dessus parce que ça change tout, quoi. Vraiment, envoyer les questions en amont, ça change tout. Tu vois, là, tu me les as envoyées aujourd'hui. J'ai pris 10 minutes pour les relire, me poser la question, de me dire qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. Et du coup, je suis hyper spontané. Et avec un sportif, des fois, typiquement le sportif qui se pose pas toutes ces questions-là, quand tu lui dis c'est quoi le dernier film qui t'a inspiré, il va te dire je sais pas trop, et tu vois, alors que s'il a lu, il va répondre du tac au tac, il va te dire ça. Donc ça change beaucoup. Et après, je fais toujours un pré-call pour m'assurer qu'ils sont un petit peu à l'aise, qu'ils ont des choses à dire, qu'ils rebondissent, qu'il y a un bon fit humain. Et après, effectivement, la problématique, c'est des fois t'as un super fit humain, tout se passe bien, et en fait l'interview elle est pas au niveau. Ça peut arriver, mais
parce qu'il y a un peu de pression, il y a un peu de stress de faire bien, ouais. de part et d'autre.
Ouais, exactement. Ça demande un petit peu de temps de se mettre en place et tout. Et ça m'est arrivé de sortir des interviews dans lesquelles j'étais vraiment pas satisfait à 100% de la qualité. Et je les ai sortis quand même parce que c'était sportifs de haut niveau, qui sont hyper reconnus, que j'ai pas envie de les vexer. Et en fait, je me dis.
Ça fait partie de la vie du podcast aussi. C'est une non-linéarité du podcast. C'est sinusoïdal, quoi.
Exactement. Et puis juste pour peut-être pour clôturer sur le sujet, en plus je me dis, enfin moi j'ai comparé à beaucoup d'autres podcasts, je pense, moi mon audience elle a grossi vite, notamment parce que j'ai réussi à toucher l'audience de ces sportifs de haut niveau qui ont eux-mêmes des grosses audiences. Tu vois, la semaine dernière j'ai fait une interview avec Perrine Laffont. Perrine Laffont, est championne olympique de ski de bosse. Elle fait énormément de contenu. Elle a un vlog sur YouTube. Elle a un compte Insta. Je crois qu'elle a plus de 80 000 followers. Sur Facebook, énormément aussi. Elle est passée sur plein d'émissions sportives. Et du coup, en fait, je me dis, peut-être que si l'épisode, il me plaît pas moi, il va plaire à son audience. Et peut-être que même si moi, je suis pas satisfait, peut-être que l'audience de cet athlète va aimer. Et peut-être que ça va pouvoir me permettre d'aller chercher d'autres auditeurs. Et jusqu'à présent, ça m'a plutôt porté chance de tout sortir, quoi.
Et justement, cette dimension audience communauté que tu as construite et qui s'est développée très rapidement au début avec ces guests très connus, comment tu fais et comment tu penses réussir dans le temps à maintenir cette audience, à continuer de l'engager, de la faire croître, si tu switches sur des profils qui sont moins connus, moins regardés et aussi qui ont une audience donc perso moins importante. Comment tu vas réussir à ne pas atteindre un plateau d'audience, puisque j'imagine que c'est aussi un des objectifs de ton podcast, d'être de plus en plus écouté, de plus en plus engagé. Donc comment dans ce mix de profils qui intervient chez Extraterrien, tu vas réussir à garder de l'engagement de la communauté et de la faire croître? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois très bien. Écoute, je pense que le podcasteur doit y mettre un peu du sien, doit mettre un peu sa touche personnelle. Et je pense que effectivement, les gens vont peut-être découvrir mon podcast en particulier grâce à un invité, parce qu'ils ont envie d'écouter cet invité et de découvrir le format podcast et de se dire, cet invité que j'ai vu 10 minutes à la télé par-ci par-là, sur lesquels que je vois sur Instagram, finalement, j'ai jamais passé une heure et demie avec elle pour comprendre comment elle était. Donc ça me permet vraiment de faire découvrir le podcast et de faire grossir l'audience avec des gens qui sont complètement novices au podcast. Je pense que c'est quelque chose, une spécificité de ma ligne édito, c'est que moi j'ai beaucoup d'auditeurs qui découvrent le podcast par Extraterrien. Donc ça c'est une force. Et après, comment je fais pour les garder? Effectivement, c'est peut-être plutôt ma touche personnelle, quoi. C'est peut-être je suis pas journaliste pro, j'y vais pour me faire plaisir, je le fais vraiment par passion et j'essaie d'y mettre du cœur, j'essaie de mettre de l'engouement, j'essaie de rigoler pendant les interviews, j'essaie, tu vois, je fais des petites blagues, je fais des petits moments où je raconte mes anecdotes perso, et en fait je me livre aussi. Et tu vois, bizarrement, au début je voulais pas, mais tu sais, un petit peu les gros podcasteurs font tous un espèce de bilan à la fin de l'année et font un épisode perso, et au début je voulais pas du tout, et j'ai écouté l'épisode qu'avait fait Alexis Minkela, excuse-moi Alexis, je sais jamais
Minkela,
comment prononcer,
tribu indé.
Ouais, je sais jamais comment prononcer son nom, mais en tout cas Alexis que je connais,
même Alexis il doute à chaque fois avant de prononcer son
ouais, mais en tout cas on t'embrasse Alexis, parce que c'était vraiment un mec génial, et ton podcast est super cool, et j'avais beaucoup aimé ce que lui avait fait, Et il s'était un petit peu livré. Et entre-temps, je parlais beaucoup avec Rudy Koya, qui est un invité que j'ai eu, qui est un gros YouTuber sur le domaine du fitness et de la musculation. Et il me dit, mais tu dois te livrer, tu dois raconter ton histoire, sinon les gens vont se lasser, en fait. Ils vont pas s'attacher à toi et tout. Et il m'a convaincu, en fait. Il m'a convaincu. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je le fais. Et en fait, c'est un épisode qui a pas forcément hyper bien marché, mais j'ai reçu une quantité de messages ultra personnalisés de gens qui m'ont dit, mais ça fait trop du bien de te découvrir, de savoir un peu ce qui se cache derrière le podcast, de savoir ce qui t'a motivé, de savoir tes petites galères, ta petite vie perso. En fait, ça m'a donné envie d'écouter encore plus. Donc, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Et après, j'ai beaucoup, tu vois, la promesse un peu du podcast, c'est viens découvrir aussi les secrets des champions. Et quand tu deviens un peu accro à découvrir ces secrets-là, je pense que tu peux vite devenir un peu boulimique, tu vois. Je sais pas si ça a été le cas pour toi, mais moi, j'ai été complètement boulimique de certains podcasts. Et d'ailleurs, bah, tu vois, je peux les citer, hein. Je parlais de Timothy Ferry, je parlais de Rich Roll, mais en France, il y a aussi Génération Do It Yourself, quoi. J'ai rencontré Mathieu au tout début de son podcast. À un événement, il me l'avait pitché, parce que pour la petite anecdote, il était intervenant dans mon école à l'ESCP, et du coup, il m'avait pitché son podcast, et je m'étais dit, bah, c'est une trop bonne idée. J'étais un de ses premiers auditeurs, et depuis, je crois que j'ai dû en louper 10%, quoi. Mmh. Et du coup, il y a un peu cet effet-là de certains auditeurs qui, en fait, en veulent toujours plus, quoi. Ils veulent toujours savoir des secrets en plus, des petits tips, des petits conseils. Et du coup, ils continuent d'être là. Et après, une dernière chose, c'est que ma communauté, elle est très sportive, et moi, elle m'écoute quand elle s'entraîne. Et sachant qu'elle va s'entraîner 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois par semaine, bah, ça laisse du temps d'écoute, en fait. Et à ce moment-là, bah, tu sais, quand tu fais ton sport, t'as pas forcément, tu vois, moi, tu vois, pas typiquement, c'est marrant, Raph, parce que moi, j'arrive pas à t'écouter quand je fais mon footing. Parce que je suis concentré dans mon footing, et tu vois, quand je t'écoute,
quand tu fais la vaisselle.
et tu vois, et quand je t'écoute, bah, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de prendre des notes, j'ai envie d'être hyper concentré, parce que t'apportes énormément de valeur avec tes invités sur ton podcast. Et du coup, bah, quand je fais un footing, je suis un peu frustré, tu vois, de pas pouvoir faire tout ça.
Ce que tu recherches, c'est un alignement entre ce que tu écoutes et ton activité. C'est ce qui permet d'avoir la concentration maximum sur le sujet et ton activité sous-jacente, pour éviter d'avoir à switcher mentalement.
Exactement. Et tu vois, et c'est pour ça que au début, moi, j'ai beaucoup targeté un peu la communauté LinkedIn et des entrepreneurs, en me disant peut-être qu'ils ont envie aussi de découvrir les secrets des sportifs de haut niveau, parce qu'il y a plein de passerelles qui sont possibles. Et en fait, bah, ils me disaient, certains m'ont dit, ouais, mais c'est un peu moins profond, c'est un peu moins réfléchi, c'est un peu moins, il y a peut-être un petit peu moins de travail de storytelling, parce qu'il y a pas de meilleur pitcher finalement que les entrepreneurs. Et du coup, ça n'a pas été du tout ma cible. Et en fait, finalement, pour une cible qui cherchait un contenu un peu plus léger, un peu plus inspirationnel, avec un peu plus d'anecdotes, avec un petit peu plus de, voilà, des petites histoires, des petites anecdotes et quelques secrets livrés au passage, mais en fait, finalement, ça correspondait beaucoup plus. Et j'ai mis quelques épisodes, tu vois, avant de m'en rendre compte. Et du coup, j'assume parfaitement ce côté-là du fait que moi, je suis un podcast qui est là pour à la fois s'instruire, à la fois se divertir, et un petit peu un podcast un peu, je dirais pas voyeur, mais tu vois, pour en apprendre un peu plus sur les sportifs, tu vois, pour découvrir un peu leurs secrets, tu vois, ce qu'ils font et ce qu'ils vivent au quotidien.
Et justement, peut-être sans citer des noms, est-ce que tu aurais des anecdotes un petit peu sympas à partager, parce que avec le nombre de podcasts que tu as fait, tu as sûrement eu des petites histoires assez fun qu'on t'a livrées. Et justement, peut-être que tu nous donnes une ou deux histoires. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur ta façon d'être, parce que c'est un mélange de spontanéité, mais en même temps d'organisation assez carré, puisque comme tu le disais, la façon dont tu cherches tes guests, dont tu les briefs et dont tu t'assures qu'ils ont bien compris l'objectif du podcast, c'est vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est militaire, mais c'est très structuré, et je pense que c'est une super approche, parce que ça permet d'avoir cette relation de confiance avec le guest où il n'y aura pas de surprise sans pour autant qu'il se sente corner à devoir absolument parler des sujets que tu as mentionnés puisque tu restes spontané dans ta façon d'être. Et je trouve que c'est une super façon de mettre en valeur ton invité. C'était un petit bilan partiel de ce que tu as dit. Ouais. Et sur les anecdotes, est-ce que tu aurais, sans nommer, sauf si tu as le droit de nommer, est-ce qu'il y a deux, trois choses sympas que tu aurais découvertes ou que tu aurais apprises, que ce soit sur toi ou que ce soit sur ton guest?
Alors dans les anecdotes,
ça peut être un fail, ça peut être un énorme succès inattendu, ça peut être un gros déplacement.
J'ai eu un gros fail avec un invité qui était absolument génial, qui était un ancien alpiniste et qui s'était reconverti, qui avait monté en fait une énorme asso pour protéger un désert humain à Madagascar. En fait, il y a une énorme montagne à Madagascar qui est vide d'êtres humains, et il organise en fait des expés avec des alpinistes et des médias et des scientifiques pour découvrir ce qu'il y a là-bas. Et il a découvert en un mois avec une quinzaine de scientifiques, il a découvert 200 espèces d'insectes et d'animaux qu'on n'avait jamais découvert. Et en fait, le côté un peu ancien alpiniste, j'étais trop content de l'avoir. Et puis ça faisait un peu la passerelle et ça me permettait de voir autre chose. Et du coup, je me déplace jusqu'à Grenoble, je prends un bus, j'arrive là-bas, il me dit ouais, je peux pas venir te chercher, j'ai plus d'essence dans ma voiture. Enfin ouais, bref, je me débrouille, je prends le bus et tout, je vais au fin fond de la montagne, quoi. Et j'arrive et en fait, j'avais un problème de batterie, quoi, et j'avais 3 jeux de piles. Et en fait, je m'étais pas rendu compte, mais mon chargeur de piles acheté sur une marque qui fait tous les produits de A à Z vendus sur Internet, dont je ne citerai pas le nom parce que je suis très en colère. En fait, il m'avait livré le truc cassé. Et en fait, toutes les piles que j'avais rechargées, elles étaient mortes. Et du coup, j'arrive, je fais 15 minutes d'interview. C'est génial. Et ça coupe une première fois. On reprend, on refait le truc, ça recoupe. Je rechange, je fais mon dernier jeu et là, ça recoupe. Et là, je fais en fait, je vais tout perdre, quoi. Et là, c'était la plus belle interview que j'ai fait, je pense. Parce que ça, c'était génial. Enfin, ce mec était hyper inspirant. Et au final, j'avais rien. Donc ça, j'étais d'une tristesse, quoi. Et j'ai pleuré dans le train en revenant, quoi. J'arrive dans le train, j'ouvre mon Audacity, je commence à faire le montage. Et là, ouais, je me rends compte que la moitié de l'interview est perdue, quoi. Et du coup, ouais, je m'en suis voulu et j'ai essayé de le recontacter. Bon, il s'avère que ce mec est du coup toujours à Madagascar et que j'avais réussi à le choper pendant le mois où il était en France pour aller chercher des fonds pour son asso. Ça, c'était un beau fail. Après, en petite anecdote un peu marrante, j'ai eu des problèmes de corde vocale durant un moment, dû à une soirée un peu trop arrosée avec mon équipe de rugby, le genre de soirée en plein hiver où tu termines les fesses dans la neige à chanter des chansons paillardes.
La 8e mi-temps.
Ouais, exactement. Et coucou à toute mon équipe de rugby. Et en fait, je me suis cassé littéralement une corde vocale. Et du coup, je suis allé voir un ORL. Il me dit, oh, bon, 2-3 séances de rééducation, allez, une dizaine max. Et puis tout va revenir. Puis genre, en fait, je fais 15 séances de rééducation, toujours rien. Puis je vais voir un autre ORL qui est vraiment une spécialiste. J'ai oublié son nom, mais elle est incroyable, à Vincennes. Elle suit des chanteurs d'opéra, des journalistes et tout, une vraie pro, quoi. Et elle me dit, elle me passe la caméra, le truc. Elle me dit, bah, en fait, il faut vous recoudre, il faut passer sur le billard et tout. Donc j'ai un truc un peu particulier avec la voix et j'ai fait beaucoup de rééducation et notamment de faire des vocalises avant les interviews. Et comme j'aime pas spécialement.
D'ailleurs, c'est
voix,
toi qui fais le générique audio de Offcast. C'est toi qui chante au début et à la fin.
Ça, ça va être une catastrophe. Mais du coup, avant mes interviews, je fais des vocalises pour vraiment me détendre et essayer d'avoir une voix à peu près posée et être sûr de ne pas avoir d'extinction de voix pendant mon podcast. Et une fois le sportif, j'étais dans le train parce qu'au début je me déplaçais toujours pour aller voir les sportifs, j'ai rien fait à distance au début. Et je suis dans le train et le sportif me dit, écoute, on va faire ça à la gare dans un petit café silencieux, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je suis désolé, donc sois prêt en sortant du train. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me préparer dès maintenant. J'ai commencé à faire mes vocalises et j'étais à côté d'une dame assez âgée à côté de moi. Et elle m'a regardé, elle a pris peur et elle est allée appeler le contrôleur qui a appelé l'agent de sécurité du train. Et elle pensait que j'étais fou, quoi. Et j'étais juste en train de faire des comme ça. Et du coup, voilà, j'ai dû expliquer, sortir mon matos. C'était une situation hyper gênante parce qu'il y avait, du coup, à la sortie du train, il y avait la police, le sportif de haut niveau et l'agent de sécurité avec moi. Enfin bref, c'était hyper gênant, quoi. Et du coup, enfin, ça nous a fait bien rire et ça a été un super épisode après, mais c'était une anecdote un peu fun, quoi.
Ouais, donc il faut que tu fasses tes vocalises dans ta tête la prochaine fois. Je sais pas si
passerelle
possible entre les cordes vocales et le cerveau.
Assez
fun tout ça. Tu parlais tout à l'heure des podcasts qui t'ont inspiré, anglophone ou français avec Mathieu et Génération. Est-ce que tu as eu cette phase boulimique, comme tu disais, où tu as énormément écouté et forcément maintenant tu as beaucoup ingéré, tu t'es beaucoup inspiré et tu fais davantage de tri, mais est-ce que tu as quand même encore une curiosité pour aller écouter des podcasteurs indés, aller les découvrir, et est-ce que tu aurais peut-être un ou deux noms actuellement à nous partager de podcasteurs que tu as découvert assez récemment ou non et que tu suis mais qui reste assez indé, assez under the radar, j'ai envie de dire.
J'en consomme beaucoup. Moi j'ai une méthode de consommation où à part certains podcasts, en fait quand je découvre un podcast, j'écoute un épisode et s'il me plaît, j'écoute tout en 3 jours j'abuse un peu, mais j'écoute tout assez rapidement et j'en écoute pas d'autres. Et il y a assez peu finalement de podcasts dans lesquels je suis accro et je vais avoir cette récurrence. Il y en avait quelques-uns pendant un moment, ceux que j'ai cités tout à l'heure. Écoute, dans le domaine du sport, je veux faire un petit coucou à plusieurs personnes. Le podcast de Nakan, c'est un podcast assez marrant qui est sur les objets connectés et sur la course à pied et qui fait du coup la passerelle entre la technologie et la course à pied et le sport. Et je trouve que leur approche est hyper intéressante. Et je trouve qu'ils sont tous les deux assez sympas. Ils se complètent super bien. Ils sont deux. Des fois, ils ont un invité et ils sont super sympas. Donc, je leur fais un petit coucou parce que ce qu'ils font, c'est assez génial. J'adore aussi un podcast qui s'appelle EPO. Alors, ça s'appelle Émanant Podcast Omnisport, mais tu peux le trouver en tapant EPO sur toutes les applis de podcast. Et en fait, c'est génial ce qu'ils font. C'est 5 amis qui se regroupent autour d'une table et en fait qui déplient un événement sportif ou une période de l'histoire en lien avec le sport, tu vois. Le dernier que j'ai en tête, par exemple, c'est la période Domenech, tu vois, où ils ont passé peut-être 2 heures à casser un peu du sucre sur le dos de toute cette génération, parce que c'était pas le seul à blâmer, je pense. Et pour expliquer tout ça, et ils sont 5 copains et ils sont autour d'une table et en fait ils préparent vachement bien. Et du coup, pour tous ceux qui sont un peu passionnés d'histoire et de sport, ils plongent vraiment dans des histoires assez passionnantes, donc j'aime beaucoup. Après, peut-être plus sur l'aspect techno, écoute, toi, je t'ai découvert, j'ai tout dévoré assez rapidement, donc ça m'a beaucoup plu. Upcoming VC que je peux recommander. Et j'ai cité Alexis Minkela aussi, j'avais beaucoup aimé. Bon, j'avais écouté il y a longtemps, mais quand j'avais découvert, j'avais tout écouté d'un coup. Et le dernier podcast que j'ai beaucoup aimé, mais pour le coup c'est un gros podcast américain de Wondery, c'est Guerre de Business. Et j'aime beaucoup en fait. Finalement, en fait, j'aime beaucoup l'approche un peu historique et un peu narrative, où finalement, en fait, t'apprends énormément sur l'entrepreneuriat avec un tripartite, quoi, finalement, avec quelqu'un qui va raconter l'histoire et qui va essayer de décoder, d'aller voir d'autres acteurs et qui essaye de faire une reconstitution. J'aime beaucoup l'approche et du coup, quand il a été, moi je l'ai découvert quand il a été traduit en français et du coup je me suis plongé là dans le podcast américain qui est très chouette, quoi.
Il y a un podcast qui est pas mal aussi anglais qui s'appelle Acquired, que tu connais peut-être, qui parle beaucoup de tech mais qui fait la story de fondateurs, et c'est des épisodes assez longs avec deux co-hosts. Mais voilà, c'est pas de la confrontation de business comme ça peut l'être avec Guerre de Business, mais c'est aussi une façon de raconter une histoire un peu différente et de manière assez, assez fraîche aussi.
Ouais, complètement.
Je te rejoins complètement là-dessus. Et peut-être pour finir cette rencontre avec toi, on aura encore énormément de sujets à aborder. Mais je pense qu'il y a un sujet qui est assez clé aussi, c'est comment tu vois l'évolution de Extraterrien. Est-ce que tu envisages une évolution avec peut-être des sujets corollaires, ou est-ce que tu veux rester focus sur le sport avec ta thèse que tu nous as expliquée actuellement? Et dans quelle mesure ce podcast, qui est une activité à toi mais qui n'est pas ton seul focus, pourrait prendre de l'ampleur dans le futur? Et est-ce qu'il y aurait un trigger qui ferait que tu deviendrais full-time podcasteur? Est-ce que déjà c'est un objectif potentiel? Est-ce que ça fait partie du chemin des possibles?
Bah écoute, je suis quelqu'un d'assez opportuniste et je m'en cache pas trop. Je t'avoue que j'avais un peu l'intention de vraiment développer peut-être un business ou de développer un média autour de Extraterrien. Et puis bon, il s'avère que la vie en a décidé autrement, et puis que en tant que futur papa, j'ai eu un petit coup de stress en me disant bon, il faut que je trouve un job un petit peu plus sûr et avoir une source de rentrée d'argent un peu plus certaine. Donc ça a un peu changé mes plans. Écoute, je pense que j'ai beaucoup de choses à faire. Vraiment, je pense que passer du online au offline, et peut-être pourquoi pas organiser des séminaires avec des sportifs de haut niveau. Pourquoi pas aller voir aussi peut-être plus des professionnels de santé aussi. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait énormément de sportifs de haut niveau qui se reconvertissaient justement dans des métiers de santé, qui sont kinés, podologues, tu vois, un peu tous ces métiers-là. Et en fait, de pouvoir peut-être un peu plus comme Rich Roll ou comme Tim Ferriss, justement aller interviewer un peu des grands gourous de la santé, du mental. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, il y avait un modèle qui m'inspirait beaucoup, c'était celui de Superhuman. Je ne sais pas si tu connais ce podcast-là. C'est des talks... c'est énormément inspiré de Tim Ferriss, hein. C'est des talks du coup d'entrepreneurs, particulièrement dans le domaine de la santé. Et en fait, derrière, il a toute une académie où en fait il te vend des formations pour chaque sujet qu'il fait. Et en fait, il va faire 10 épisodes par exemple sur le sujet de qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le sujet du sommeil par exemple, et il va peut-être pas en faire 10, mais il va peut-être un peu moins, et il va vraiment aller les interviewer, leur demander voilà comment optimiser son sommeil, quels sont les impacts sur les hormones et tout, et il va trouver un besoin autour de ça, il va en créer une formation. Et en fait, son podcast, c'est vraiment un énorme canal d'acquisition. Après, tu vois, je suis beaucoup en train de réfléchir, et je suis toujours peut-être une autre façon de voir les choses, mais pour moi, il y a deux façons vraiment de pouvoir vivre du podcast. Il y a soit effectivement t'en fais un média vraiment à part entière que tu monétises, un peu comme les gros studios de podcast font, et du coup tu fais de la pub, tu fais des partenariats, tu fais de la marque blanche. Soit tu utilises vraiment le podcast comme un médium d'acquisition de trafic pour un autre business. Et je pense que là, l'étendue des possibles est hyper grande, et que là, tu peux faire vraiment une infinité de business possibles, à condition que ça soit parfaitement aligné, du coup, et parfaitement en alignement avec soit ton audience, soit avec ce que tu fais. J'ai encore peut-être à creuser dans ce domaine-là. J'ai un peu choisi la voie de la facilité, effectivement, d'en faire un média. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, des contenus peut-être un petit peu plus snackable, un peu plus court, un peu moins inspirationnel, pour ouvrir des barrières, parce que j'ai peut-être aussi une mission, tu vois, comme j'ai beaucoup d'auditeurs qui découvrent le podcast par Extraterrien. Pourquoi pas faire un format qui soit encore plus, je sais pas comment dire, newbie friendly, je sais pas comment on dit, mais qui soit encore plus démocratique ou démocratisable. Bref, j'ai pas le terme, mais je pense que les gens auront compris, quoi, qui soit encore plus accessible. Voilà, ouais. Qui soit encore plus accessible à des gens qui sont pas familiers avec le podcast. Je me pose encore ces questions-là. Je pense que mon audience, elle est encore un petit peu petite. Je suis aussi très tenté par l'attrait de faire un Patreon, honnêtement, parce que pour moi, c'est la liberté absolue, c'est la tranquillité, c'est vraiment une preuve de reconnaissance de tes auditeurs qui est très belle. Malheureusement, en France, c'est pas un modèle qui marche. Je pense que ça n'a pas été un modèle qui a été beaucoup tenté aussi, malheureusement, et que y a très très peu de podcasteurs qui l'ont vraiment poussé à fond et qui ont vraiment un vrai retour d'expérience à dire là-dessus. Donc moi, je suis peut-être tenté de me faire mon propre avis avec ça d'ici peu de temps, quoi.
Donc encore beaucoup de chemins différents à explorer, mais quand même deux pistes et deux trajectoires possibles, le média ou le marque blanche. C'est un peu...
Ouais, exactement.
Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup Bart pour aujourd'hui, tout ton retour d'expérience et cette ouverture sur ton mental et sur ta façon d'être un podcasteur. Est-ce que tu souhaites devenir dans cet exercice qui est comme un exercice dans lequel il faut énormément s'impliquer et aussi se dévoiler, comme tu le dis, pour aller raccourcir le lien avec ces auditeurs. Est-ce que tu peux nous rappeler les liens pour écouter ton podcast, où on peut l'écouter, et si tu as une newsletter éventuelle que tu envoies avec tes épisodes?
Ouais, tout à fait. Extraterrien, du coup, sur toutes les applis et les plateformes de podcast. La majeure partie de mon audience est sur Apple, hein, Apple Podcast et iTunes. Donc, j'encourage les gens à aller dessus. Sinon, j'essaye d'avoir un compte Instagram assez dynamique où je repartage pas mal de choses et je crée une petite audience sympa dessus. Donc, n'hésitez pas. Le compte, c'est extraterrien.podcast. Et enfin, la newsletter, c'est le premier lien quand on tape dans Google extraterrien newsletter. Voilà, donc c'est optimisé pour le référencement, on va dire.
Excellent. Bon, on mettra tout dans les show notes d'aujourd'hui. Merci une fois de plus, Bart. Et je te souhaite un bon début de paternité qui a commencé le premier jour du confinement, c'est ça?
Ouais, exactement, le 17 mars. Donc, ouais. Mais écoute, merci beaucoup à toi pour cette expérience. Je suis pas souvent de l'autre côté du micro et c'était un vrai plaisir en tout cas de le faire avec toi. Et j'espère que l'aventure de Offcast va durer encore longtemps parce que c'est une très bonne initiative, je trouve.
Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir été le pilote aujourd'hui.
Ok.
À très bientôt, Bart.
Salut.
Salut.